RFI en Haïti. Ce matin, ça, nous avons parlé de mouvement paysan papaye, c'est pas du vent sur RFI.
Haïti chérie, c'est bon pays, passé ou non point. Au moins t'es guidé, au moins t'es capable pour prendre valeur. Au moins t'es resté, pour me dégager, monsieur. Tout ça, tu vraiment, tout ça, où t'es pour moi.
Si vous nous rejoignez, nous sommes à 156 km au nord de Port-au-Prince, en Haïti, sur le plateau central, et nous découvrons toutes les actions du mouvement paysan papaye avec vous, Axène Joachim. Alors là, nous sommes au cœur du mouvement paysan papaye, là où ça a commencé, à la pépinière, puisque Haïti souffre vraiment de la déforestation. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2% de couvert végétal, donc tout a démarré ici, il y a 40 ans.
Oui, nous sommes à la pépinière centrale du MPP, là où nous produisons des plantules pour distribuer aux paysans pour la reforestation du pays. Nous sommes à moins de 2% de couvert végétal, donc Haïti marche à grands pas vers la désertification. Normalement, conscient de cette situation, donc cette pépinière est là pour desservir la population, pas seulement membres du MPP qui doivent venir ici au prendre des plantules, mais tout, c'est ouvert à tout le monde. Même les gens qui habitent dans les villes, donc ici, viennent pour prendre des plantules. Donc nous avons avec nous ici deux personnes qui sont responsables directs de la pépinière, c'est Herman Saint-Illus et Madame Alfred. Donc c'est ces deux personnes-là qui travaillent, qui sont responsables de la production de plantules au niveau de la pépinière. Donc Herman peut vous en parler davantage sur l'activité qu'il fait ici au niveau de la pépinière centrale du MPP.
Bonjour Herman.
Bonjour Madame.
Alors vous, vous êtes agronome?
Oui. Et non, parce que je suis technicien, mais je suis en quête d'une licence en agronomie.
Vous êtes en cours d'études, on va dire.
Oui.
Alors là, on est donc sous un filet. Autour de nous, il y a plein de plantations. Tout ça, ce sont des futurs arbres qui vont être plantés sur le sol haïtien. Qu'est-ce qu'il y a comme arbre ici?
Et ici, là, donc, c'est de la cèdre. Ici, là, c'est une plante appelée guatipiline.
Il y a combien de variétés en tout ici?
On a maintenant 6 variétés ici. Comme je l'ai dit, c'est guatipiline, on a papaye, avocatier en haut, acacia au fond, ici là, de la cajou.
Comment vous choisissez ces variétés?
On fait les choix suivant la demande des paysans. Et ensuite, on fait les achats des semences, disons. Et on les met germer ici. Et en fait, dès qu'ils sont prêts, ils viennent en prendre pour aller transplanter.
Vous leur vendez?
Non, on donne ça gratuit.
Vous donnez gratuitement les arbres?
Oui, oui.
Et vous donnez combien d'arbres, je ne sais pas, par semaine, par mois?
Certaines fois, on donne jusqu'à 2000 plantes par mois.
Et c'est uniquement pour le plateau central ou c'est dans tout Haïti?
Disons pour le plateau, mais des fois, il y a des gens qui viennent ici, parfois à Nord-Est, Port-au-Prince, Sud, tout ça.
Et c'est important pour vous de faire ce métier-là, ici, à Haïti?
Oui, oui, oui. C'est très intéressant pour moi.
Pourquoi?
Parce que mon pays est en route de désertification.
Vous avez l'impression que vraiment il y a une urgence, vous vous sentez utile?
Oui, oui.
Alors Joachim, Axène, Herman nous expliquaient que les arbres sont donnés, les gens ne les payent pas. Comment est-ce que vous faites financièrement?
Nous avons une mauvaise habitude, c'est très mauvaise. Une mauvaise habitude, c'est pas bon. Au début, on avait commencé à livrer les plantules de manière gratuite aux paysans. Donc les paysans ont habitué avec ça. Donc, ça n'a pas fait trop longtemps, 2 à 3 ans, que nous avons commencé à demander aux paysans de payer une misérable monnaie pour nos plantules. Par exemple, nous avons demandé de payer 10 gourdes, moins de 50 centimes d'euros, pour une plantule fruitière et 5 centimes d'euros pour une plantule forestière. Donc ils se sont montrés réticents. Pourquoi? Bon, nous avons conclu que nous avons mal commencé avec eux.
Vous les avez mal habitués.
Exactement. Normalement, ça demande tout un travail idéologique pour reformater leur pensée parce que l'activité de la pépinière centrale du bébé est permanente. Parce que pour produire une plantule, il faut de l'argent, il faut qu'on prépare le médium, il faut qu'on achète du fumier, il faut qu'on achète des semences. Donc cet argent doit sortir quelque part.
Puis le chantier est vaste. Hein. Exactement. Vous plantez donc, combien d'arbres, du coup, donc, grâce au mouvement paysan?
Donc, normalement, nous sommes des centaines de milliers. Hein, des centaines de milliers de plantules. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête.
Et on coupe combien d'arbres?
Donc, en Haïti, on coupe 40 millions. 40 millions par an. De 30 à 40 millions par an.
Donc, vous plantez toujours moins que ce que l'on coupe?
Nous autres, nous donnons l'exemple. Et c'est s'il y avait d'autres organisations qui font ça, ou bien l'État faisait ça, donc on pourrait bien arriver à l'amélioration du couvert végétal. Donc nous sommes convaincus que MPP seul ne peut pas changer la situation. Bon, il faut que cette activité continue. Donc il y a pas mal des amis du MPP qui contribuent, okay, à la production. Par exemple, le Grassroots International, donc ça aide beaucoup. Il y a une participation qu'ils donnent au niveau du MPP. Nous utilisons, n'est-ce pas, ce fonds pour continuer avec l'activité de la pépinière centrale.
Et combien de personnes travaillent ici?
Donc, il y a deux personnes responsables. Mais quand même, il y a des activités que nous faisons. Nous invitons d'autres personnes à venir vendre une journée de travail. Donc, normalement, il y a deux personnes là, et Herman et Madame Alfred, qui travaillent comme des personnes responsables directes.
On va dire bonjour à Madame Alfred. Bonjour, Madame. Donc, vous travaillez depuis combien de temps dans cette pépinière, Madame?
10 ans.
Elle a 10 à 12 ans et depuis qu'elle travaille ici, à la pépinière.
Depuis 2000.
Elle a commencé depuis 2001.
C'est important pour vous le travail que vous faites ici?
Ah oui, l'important, en pile. Il fait mal vêtement Timonio.
C'est important pour moi parce que ça m'aide à élever mes enfants, à éduquer mes enfants.
Il y en a qui finit net, qui fait filo. Il n'y a pas pour un agronome. Il y a ça qui apprend le docteur déjà. Il y a un qui apprend le docteur encore.
Donc, ces enfants ont terminé leur étude classique. Il y en a parmi eux qui sont déjà terminés leur étude universitaire. Il y a une infirmière. Il y a un enfant qui étudie l'agronomie maintenant, il y a d'autres qui étudient la médecine maintenant.
Oui. Ah, donc vos enfants ont pu faire leurs études grâce à votre travail ici?
Oui, c'est.
Et vous avez un enfant agronome, donc vous avez transmis à vos enfants ce plaisir de faire pousser des arbres?
Là, il est venu là, très joué. Il vient faire photo, il couche en bas, là, il fait photo pour la laver, écoutez la barbe. Agronome, là, il remet en pile, oui.
Un de ses enfants qui étudie l'agronomie est venu ici une fois, il vient avec son caméra, il pointe des photos, il a couché ici, il pointe des photos pour apporter, pour montrer le travail que fait sa maman.
Et est-ce que vous enseignez à vos enfants le respect de la nature?
Oui, yo aimé.
Les enfants aiment la nature.
Yo aimé. Yo aimé.
Merci beaucoup, madame, et bon courage.
Ok, merci.
Axel, on va quitter la pépinière. On est bien ici, c'est beau, il fait bon, mais il y a un moment où il faut partir. Et on va aller vers un lac.
Oui, maintenant nous avons laissé la pépinière pour nous rendre au lac collinaire de Bassin-Bœuf. Donc on part rapidement.
Petite moi malade, ma poule
Axel, là nous avons fait quelques kilomètres en voiture, nous sommes au milieu des champs. Parce que nous allons rencontrer des bénéficiaires, des gens qui ont bénéficié finalement de toute la formation que vous faites dans la région, notamment en matière agricole. On est où exactement là?
On est exactement au Bassin Bœuf, là où nous avons une activité de lac collinaire. Ici, ça fait un bon bout de temps qu'on commence à travailler avec les gens de la communauté de cette zone, le Bassin Bœuf. Donc on a ici présent avec nous des bénéficiaires directs qui font des activités. Et comme le MPP, activité agricole, le MPP travaille pour la souveraineté alimentaire. Donc, souveraineté alimentaire ne veut pas dire donner aux paysans à manger, mais et montrer, enseigner aux paysans à produire leurs propres aliments. Donc, dans ce sens, nous sommes ici pour prendre les 10 ans de quelques bénéficiaires, bien, leur point de vue sur les activités de formation que fait le MPP pour eux.
Voir ce que le mouvement Paysan Papa il leur a apporté. Alors, venez. N'ayez pas peur.
Nous vous appelons, nous vous avancez.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris grâce au mouvement paysan papaye pour cultiver? Qu'est-ce que ça vous a appris de plus par rapport à ce que vous faisiez avant?
Bon, avant, nous, dès qu'on travaille bon, ici, là, c'était pitimi avec maïs, avec pois Congo, nous, dès qu'on plantait.
Avant, ici, on travaillait, on plantait seulement du maïs et du pois Congo et du sorgho seulement qu'on avait l'habitude de faire.
Et là nous venons planter culture ça yo, là nous venons en date, nous finir récolter yo pas gagner encore. Laisse ça et la vie a toujours dit pour nous.
Et normalement, une fois récolté ces cultures-là, du maïs et du sorgho, on ne fait rien. On n'avait pas l'habitude de produire des légumes ici. Pour manger des légumes, il faut partir au nord du pays, bien loin, parcourir des kilomètres pour en acheter. Mais avec cette activité qui est là, donc une fois qu'on a récolté les cultures saisonnières, le maïs, l'haricot, par exemple, le sorgho, donc il y a d'autres activités qui l'entreprennent donc pour assurer la saison sèche. En produisant des légumes.
Et depuis MPP est venu, MPP avec l'Union européenne est venu construire la colline pour nous.
Avec le financement de l'Union européenne via MPP, donc non seulement ils cultivent du maïs, du bois, mais dans après saison, donc ils produisent des légumes, non seulement ils trouvent pour nous se nourrir, eux-mêmes et leurs enfants, et accompagnent le maïs avec des légumes pour manger. Donc la situation est totalement changée pour eux.
C'est aussi grâce à la création du lac. Alors qu'est-ce qui s'est passé autour de ce lac?
Bon, pour bon lac, la ligne, pour tout lac là, nous-mêmes, capacité, j'en notais, il vient de plus changer pour nous parce que les moments, n'entend longtemps, nous devions plus mal. Mais tant qu'on y a, la vie a vint plus mieux.
Normalement, avec la présence du lac qui est là, donc ça apporte beaucoup de changements pour moi. Et que, donc, on produit plus, on récolte plus, on a beaucoup plus de rentrées en termes d'économie. Donc, ça a changé. Donc, l'unique problème que nous confrontons, c'est qu'il faut acheter ça, du carburant.
Pour amorcer la pompe qui permet. Donc, ce lac a été créé, ça fait une réserve d'eau, mais il faut payer la pompe qui pompe l'eau pour l'amener vers les cultures.
Exactement.
Et quels légumes vous cultivez aujourd'hui?
Bon, nous cultivons les tomates, choux, bérégène, et
le
poivrons et piments piqués.
Ils produisent du pois, ils font de l'aubergine et tout ça. Donc c'est une diversification, c'est purement l'agroécologie qu'ils font ici.
Et on t'a parlé autour du lac là, et nous cultivons un peu le bois autour du lac là.
Donc ils ont planté beaucoup d'arbres autour du lac.
Et là pour nous te connaître bah, les animaux de l'eau, c'est loin, autour du lac là. Qui nous bénéficiaient de l'eau, notre travail, et puis les animaux bénéficiaient de l'eau pour boire.
Avant, ils ont parcouru des kilomètres pour donner du breuvage à leur bétail. Maintenant, avec la présence du lac, donc, ça a changé à beaucoup d'apports, donc ils n'ont pas allé loin pour donner à boire à leur bétail.
Et pour bénéfice autour du lac, là, nous avons un peu de canana, et côté qui va faire les légumes qui sous de l'eau, qui fait bon en tout, et c'est un bénéficié.
Ok, un très autre grand bénéfice. Que nous avons à partir, n'est-ce pas, de la présence du lac, c'est que non seulement nous cultivons des légumes, mais aussi les zones où nous ne cultivons pas des légumes, nous plantons de la canne à sucre et nous produisons de la banane, donc ça augmente notre revenu.
Et autour de la clatour, et pas de groupement, nous pas de conchita ensemble, qu'on y a un groupe famille sur la clat et nous avons réfléchi ensemble.
Avant, il n'y avait pas de groupement autour des lacs. Avec la présence des lacs, les gens s'associent. Ils sont organisés en groupement, ils réfléchissent ensemble. Donc, c'est une autre mode de vie.
Et puis, nous-mêmes, garçons, yo, nous qu'on allé à voisin dans le pays Pagnol. Les nous arrivons, nous faisons un travail pour eux. Et puis, assassins qu'on barre nous en route, permettent les nous venir à la caille, nous gangouas, venir planter
des graines. Normalement, nous autres, surtout pour les garçons, parfois, nous allons en République Dominicaine, comme exode rural. Nous allons travailler. De retour, on nous assassine, on prend tout que nous avons. Et puis nous revenons en Haïti sans rien. Et puis la misère augmente pour nous.
Bénéfice là, ça permet toute petite famille qui travaille petite nous, venir mettre main ensemble avec nous. En tant que si monde qui a préparé pour agronome, demain si je voulais, ou bien technicien.
Donc ça crée au niveau des enfants un autre esprit. Ça veut dire comment savoir les réalisations qui font partie de l'acte. Donc ils veulent, tous veulent étudier l'agronomie. Donc ils veulent. À rentrer dans l'exploitation agricole.
Et puis, nous produisons poisson tout. Non.
Ok, à partir de ça, à partir des lacs, ils font de la pisciculture. Donc, à chaque période pascale, si tu viens ici, donc, les gens s'organisent. Il y a tout un marché de poissons ici. Donc, ils pêchent du poisson. Là, au niveau des lacs, il y a des poissons. Il y a des différentes espèces de poissons qu'ils cultivent là. Donc, ici, là, l'habitude alimentaire se change aussi. Ils mangent du poisson, ils mangent des légumes, ils mangent tout. Donc, normalement, il y a une très forte.
Et puis, les légumes là, encore, ils ont un avantage avec l'école, si nous aider nous payer l'école.
Donc, là, avec la vente des légumes, ça nous aide à envoyer nos enfants à l'école, à payer l'école à tout. Mm-hmm.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis je crois qu'au mouvement Paysan Papaye, on aime bien travailler en chansons. Est-ce que vous accepteriez de nous chanter une de ces chansons?
On va bien vous
plaire. Ok, je vais faire un petit chanter après.
Si vous voulez développer, formez des ensemble. Pour un capitule, nous avons chaque monde doit gagner un rôle. D'un côté, on va vivre. Pour yon cap compléter l'autre. Pour yon cap soutenir l'autre. Pour yon cap compléter l'autre. Pour yon cap soutenir l'autre.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Hein.
Okay.
Merci
beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Je vais avancer les vignes devant.
Si vous voulez, tout ça dans mon tube,
Semaine ça, nous avons parlé de mouvement paysan papaye, c'est pas du vent sur RFI.
En Haïti, seulement 20% de la population a accès à l'électricité. On a vu tout à l'heure à Seine qu'il y avait eu beaucoup de déforestation en Haïti parce que les gens n'ont que le bois pour cuisiner. Mais pour la lumière, pour l'électricité, il y a une solution que vous essayez de développer ici, ce sont les panneaux solaires.
Oui, bien sûr. Donc l'idée de construire ou bien d'avoir ce petit atelier de panneaux solaires, c'était l'idée de aider les paysans, surtout dans la paysannerie, les gens de la paysannerie, d'avoir accès à l'énergie. Parce que les enfants qui étudient au milieu rural, c'est difficile, ils utilisent des kérosènes.
Des lampes au kérosène, oui. Qui
ouais,
brûlent dans les maisons, qui dégagent de la
qui
pollution.
Qui dégagent le monoxyde de carbone, donc c'est pas bon pour les yeux des enfants. Donc on avait pensé à ça, donc si on peut arriver à améliorer ça, permettre aux paysans d'avoir un petit système d'éclairage avec deux ou trois et ampoules, avec deux batteries, avec un panneau solaire, ça pourrait bien aider aux paysans d'avoir de l'éclairage, surtout dans la nuit. Donc c'est pour cette raison que nous avons ce petit atelier qui a 9 ans de fonctionnement et qui en bois cadabra, parce que c'est difficile de trouver les matériaux, mais les matières premières pour travailler. Donc c'est pourquoi nous avons une très forte demande. Donc en Haïti, le problème d'électricité, ça, c'est un problème, c'est un handicap même.
Puisqu'à peine 20% de la population a accès à l'électricité.
Exactement. Donc, c'est pourquoi nous avons ce petit atelier pour commencer, voir si nous pouvons amorcer le problème. Mais quand même, le problème reste en entier. Mais quand même, ça n'empêche pas que nous autres, au niveau du MPP, nous commençons avec ça pour essayer d'atténuer la situation en matière d'énergie pour les paysans.
Et en 9 ans, vous avez permis à combien de familles d'avoir accès à l'électricité?
Bon, normalement, le programme en soi, on a commencé, mais on avait interrompu un coup de route. Par faute de fonds, de moyens. Donc, des gens qui ont un peu de capacité économique ont pu acheter, n'est-ce pas, un panneau. Ça coûte relativement cher, un panneau, pour faire ça.
Mais ça le coûte combien?
Je ne sais pas si Jocelyne, qui est le technicien qui travaille dans l'atelier, peut nous donner une idée sur le prix d'un panneau.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour.
Combien ça coûte un panneau solaire?
Un panneau solaire 60 watts. Ça coûte $280 is.
$280 américains.
Américains, oui. 120 watts, et ça se vend $500.
Oui, donc c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Ça reste
non,
très cher.
Ouais, jusqu'à présent, ça reste un petit peu cher parce que tous les gens ont capacité d'acheter un panneau pour $500 américains.
Comment est-ce que vous voyez le futur de l'énergie aujourd'hui en Haïti, puisqu'il faut arrêter de couper les arbres parce qu'il n'y a plus que 2% de couvert végétal, les panneaux solaires sont trop chers, il n'y a que 20% de la population qui a accès à l'électricité.
Oui, normalement, jusqu'à présent, nous croyons que Haïti a suffisamment de ressources pour résoudre le problème à 100%. C'est bon, arrêt de diminuer, même à 50, 60, 75% au pays arrivé. Bon, tout avantage a des désavantages. Alors, on croit, le soleil, c'est vrai pour le panneau solaire, mais on peut utiliser d'autres sources d'énergie. Donc, en Haïti, nous avons de lignite.
Hein, ouais, ça, c'est du charbon, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre.
Ouais, donc, y a des alternatives. Le problème, c'est que la coupe d'arbre, c'est un problème, c'est vrai, mais si on plante, on peut récolter. Ouais, si on plante, on peut faire des émondages avec des branches d'arbre. On peut produire de l'énergie. Par exemple, on peut produire des forêts à caractère énergétique. Donc pour faire de l'énergie, ça on ne coupe pas d'arbre, mais on débranche, on fait des désherbages, puis on a d'arbre pour cuisiner, pour faire tout. Mais c'est qu'en Haïti, on coupe, on ne plante pas suffisamment. C'est là le problème. Donc on peut arriver à amorcer la situation. Mais quand même, il faut une volonté. Il faut de la volonté.
Volonté politique.
Politique, là, c'est sûr. Il faut ajouter politique derrière ça.
Ça sert à rien.
Nouvelle du pays, il fait des nouvelles des Antilles, pays si comme moi rêver, les tellement douce, tellement tranquille. Haïti, c'est qu'on s'élève, c'est l'équipe nouvelle des Antilles, puis on me prend moi l'homme diable, moi pas de jour.
Jean-Baptiste Chavannes, bonjour.
Bonjour.
Nous avons visité beaucoup de choses réalisées par le mouvement paysan Papaye aujourd'hui. Évidemment, on n'a qu'un tout petit aperçu parce que ce mouvement existe depuis 40 ans. C'est vous qui l'avez créé. À l'origine, pourquoi vous l'avez créé?
C'est un plaisir de recevoir RFI et jusqu'ici chez nous, à Papaye. Raconter l'histoire, pourquoi ce mouvement a pris naissance, c'est une histoire assez longue. Mais je dois dire rapidement, je suis fils d'une famille paysanne. Pour nous, la première chose, c'était l'injustice, les abus, l'exploitation des paysans que moi je constatais. Et là, moi je voulais faire un travail, premièrement, de réconciliation entre paysans et paysans. Et pour faire comprendre que c'est seulement ensemble et qu'ils peuvent se défendre. Et c'est pourquoi le slogan central du MPP, et c'est l'organisation ou la mort. Donc c'est ou bien vous vous organisez ou bien vous allez tous mourir. Et donc, et c'est à partir de cela que j'ai commencé par faire cette organisation, mais c'est pour affronter des problèmes politiques. Donc, dès le début, nous considérons le mouvement comme un mouvement et sociaux.
On a visité beaucoup des réalisations de votre mouvement aujourd'hui. On a vu tout ce que vous faites pour la reforestation, l'agroécologie, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Quelles sont les priorités pour vous aujourd'hui?
La priorité absolue, c'est la souveraineté alimentaire. Maintenant, nous voulons que le pays reprenne son autonomie, sa souveraineté dans le domaine alimentaire. Parce que jusque dans les années 70, nous étions encore un pays souverain sur le plan alimentaire. Donc maintenant, on est dépendant de la République dominicaine, des États-Unis particulièrement. Donc c'est développer une production agricole avec des méthodes agroécologiques, c'est-à-dire des méthodes qui respectent le droit, les droits de la terre, mère, et qui respectent l'environnement, des méthodes qui permettent de produire des aliments sains et des aliments bons pour la santé et qui respectent aussi la culture paysanne, qui respectent les habitudes alimentaires des paysans. Donc ça, c'est un objectif. Et pour atteindre ça, il faut quand même sauver le pays qui, avec moins de 2% de couverture végétale, c'est un pays en voie de désertification.
Comment le mouvement est financé aujourd'hui?
Bon, premièrement, le mouvement est financé par ses membres. Et chaque membre paye une cotisation. Maintenant, quand on doit entreprendre des travaux, d'infrastructures, etc., mais par exemple, si nous voulons faire un lac collinaire ou bien un système d'irrigation, eh bien là, ce sont des infrastructures qui coûtent trop cher. Et là, nous avons, et parfois nous participons à des appels à propositions de l'Union européenne avec des partenaires et des ONG européennes. Et nous montons des projets et nous cherchons du financement international. Mais nous voulons, au fur et à mesure, développer une souveraineté financière également au niveau de l'organisation.
40 ans plus tard, il y a eu une immense évolution, puisqu'aujourd'hui, vous regroupez plus de 60 000 agriculteurs. Vous avez dû fuir d'ailleurs le pays au milieu des années 90. Vous êtes revenu. Et aujourd'hui, ce mouvement, j'imagine que vous en êtes fier.
Les paysans sont très fiers. Mais moi, d'une part, et je suis fier, mais d'autre part, quand on considère la situation des masses paysannes encore aujourd'hui, et la situation n'a pas tellement changé après 40 ans, ou bien si ça a changé, c'est plutôt dans le mauvais sens. Bon, peut-être si le mouvement n'était pas là, et ça serait pire. Parce que là, on a fait des efforts dans le domaine de la défense de l'agriculture paysanne, et la défense de l'environnement, la défense des droits des paysans. Aujourd'hui, un paysan va être fier d'être paysan. Maintenant, il se défend contre les exploitations des autorités. Mais Le défi est encore très grand parce que nous avons un pays vraiment presque détruit hein, sur le plan environnemental avec moins de 2% de couverture végétale. Et le pays produit à peine 40% de ses besoins alimentaires. Donc et là, et nous sommes très conscients que malgré notre action, et pas seulement dans le plateau central, et le MPP, et ses 60 000 membres dans le plateau central, ben nous travaillons à travers tout Haïti, et nous avons créé un mouvement national, et qui s'appelle Mouvement Paysan National du Congrès des Papas, avec plus de 200 000 membres aujourd'hui, et c'est plus de 15 000 groupements qui ont été montés selon notre méthode au MPP. Mais il y a d'autres organisations paysannes pour défendre l'agriculture paysanne, défendre l'agroécologie, défendre la souveraineté alimentaire et faire des pressions pour défendre les droits des paysans à tous les niveaux. Donc là, au niveau national, il y a un véritable combat qui se donne.
Vous trouverez plein d'informations complémentaires, des photos et les coulisses du reportage en vidéo sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Si vous avez envie de nous faire découvrir un mouvement citoyen auquel vous appartenez ou qui s'agite près de chez vous, n'hésitez pas à nous écrire c'estpasduvent@rfi.fr. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Au revoir, Naoué, bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.